France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La manifestation des urgentistes à l'appel de la CGT est prévue demain à Paris. Elle est maintenue. Les mesures présentées hier par Agnès Buzyn n'ont pas réussi à convaincre ou à satisfaire les professionnels. La ministre de la Santé a annoncé un grand pacte de la refondation avec une enveloppe de 750 millions d'euros sur 3 ans. Parmi la douzaine de mesures, citons la création d'un service d'accès aux soins disponible en ligne ou par téléphone 24 heures sur 24. Rien n'est prévu en revanche en matière de réouverture de lits ou de revalorisation salariale, deux des principales revendications des grévistes. Le collectif Interurgence doit se réunir par ailleurs aujourd'hui en Assemblée Générale. Aigle Azur a reçu 14 offres de reprise, principalement des projets de reprise partielle. Elles sont toutes à parfaire et ne sont pas exécutables en l'état, précise la compagnie aérienne placée en redressement judiciaire et dont les avions sont toujours cloués au sol. Tous les candidats ont maintenant 48 heures pour affiner et pour chiffrer leurs propositions. Il a subi tous les camouflets possibles. Boris Johnson a été une nouvelle fois désavoué hier soir à la Chambre des communes. Les députés britanniques ont voté contre l'organisation d'élections anticipées. Et un peu avant, le Premier ministre avait prévenu qu'il ne demandera pas de report du Brexit prévu le 31 octobre prochain. Autre contrainte, l'adoption hier soir d'un texte pour obliger le gouvernement à publier des documents confidentiels sur le Brexit. Les séances du Parlement sont maintenant suspendues jusqu'au 14 octobre. Et puis notons que l'industrie automobile l'année dernière a représenté près d'un dixième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'équivalent des émissions de l'Union européenne tout entière. Ce bilan est réalisé par l'ONG Greenpeace. Volkswagen arrive en tête des plus gros pollueurs, alors que s'ouvrira jeudi le salon automobile de Francfort en Allemagne.
Chaque jour sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Direction les forêts du monde. Alors que les récents incendies en Amazonie ont un peu réveillé les consciences, penchons-nous sur l'urgence à les protéger. Quels outils pour empêcher la déforestation? Pourquoi ne parvient-on pas à empêcher ce grignotage progressif de nos forêts? Et quel prix à payer pour les peuples autochtones qui y vivent? Outre les retombées économiques liées à leur exploitation, les forêts sont aussi parfois le repère privilégié de groupes djihadistes, de groupes rebelles qui y organisent leur lutte. Dans les forêts du monde, rendez-vous sur France Culture.
Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Le mercredi 25 septembre, à 20h, à l'auditorium de Radio France, le chef d'orchestre slovaque Juraj Valčua dirige l'Orchestre National de France dans la deuxième symphonie de Rachmaninov. Tantôt mélancolique, tantôt héroïque, toujours lumineuse. Les gigantesques vagues orchestrales, les tourbillons de sons et de notes vous emporteront. Entrez au cœur du concert. Réservation, maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Toufik Hakem est à vos côtés pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui la prise de son Pierre-Henri. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos dans le Réveil culturel et bien sûr, on peut s'abonner au podcast quand on n'est pas lève-tôt. Le podcast de ce rendez-vous quotidien est disponible, entre autres, en passant par l'application Radio France. Comment représenter la liberté quand on est peintre, sculpteur, céramiste ou architecte? Comment les grands artistes du 18e et 19e siècle ont-ils représenté la liberté ou l'idée qui se faisait de la liberté? C'est pas la même chose sous la Révolution, pendant l'Empire ou aujourd'hui. Alors, la passion de la liberté des Lumières au romantisme, c'est l'intitulé de cette exposition qui a lieu jusqu'au 13 octobre à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux. Et ce matin, le Réveil culturel accueille les deux commissaires de cette exposition, Caroline Fillon et Isabelle Bexia.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
L'invitation La passion de la liberté des Lumières au romantisme invite, bien sûr, à voir comment le concept de liberté a aussi évolué au fil d'un siècle. Le sens du mot liberté n'est pas le même pendant la Révolution que sous l'Empire. On va en parler à travers 300 pièces, peintures, sculptures, objets d'art et beaucoup d'œuvres du musée du Louvre. La scénographie incite à se poser cette question, n'est-ce pas Caroline Fillon?
C'est
ça le
bonjour.
But. Bonjour.
Oui, la scénographie qui a été conçue par Marie Corbin s'invite déjà dans un lieu qui présente trois niveaux. Donc trois niveaux qu'il fallait habiller, qu'il fallait habiter. Une scénographie qui reprend les grandes thématiques que vous avez évoquées, effectivement la liberté à travers un point de vue politique, économique, social, des définitions aussi de la liberté en introduction. Et pour que le visiteur puisse se repérer dans cette immense exposition, puisqu'il y a près de 300 pièces, des couleurs en fait lui permettent d'identifier les thématiques dans lesquelles il se trouve.
Alors on va parler bien sûr de ces thématiques, mais l'idée Isabelle Bexia, c'était aussi de montrer à quel point ce mot liberté et le sens qu'on lui donne a beaucoup évolué.
Oui, tout à fait. Et l'exposition, justement, interroge le visiteur. Elle n'apporte pas vraiment de réponse, mais elle explique justement que la liberté, dans ces périodes assez troubles, hein, puisque l'exposition parle beaucoup du choc des révolutions et des traumatismes, des morts, notamment, par exemple, le tableau La Grèce sur les ruines de Missolonghi ou Les femmes sous Liotte. Donc, il y a vraiment l'idée d'une liberté qui aura un sens différent et qui va aborder différentes thématiques, justement.
Cette exposition est bien sûr à Bordeaux et c'est toute une saison autour de la liberté que la ville de Bordeaux a lancée cette année.
Oui, une saison autour de la liberté, une saison culturelle qui est la deuxième édition. La première, il y a 2 ans, était sur le thème du paysage. Et c'est plus d'une centaine d'événements qui s'inscrivent dans cette saison liberté, dont l'exposition est un petit peu l'événement phare. Elle l'a inaugurée et elle lui survit un petit peu puisque la saison se termine en août et l'exposition dure jusqu'au 13 octobre.
Et la question que vous êtes posée, vous qui travaillez dans le musée, c'est comment on a représenté la liberté?
Et
alors,
pas que.
Oui.
Et pas que, oui. C'est ça qui rend d'ailleurs cette déambulation très, très, très stimulante.
Alors on va la représenter soit de manière allégorique ou alors de manière beaucoup plus expressive. Les œuvres nous parlent. Il y a tout un étage d'ailleurs qui parle des héros de la Révolution et de la façon de les représenter avec un caractère héroïque ou au contraire idéalisé. Voilà, c'est ça qui est assez passionnant dans l'exposition puisque nous sommes en présence d'œuvres souvent de grands maîtres hein, comme David ou Rude, avec des œuvres majeures qui incarnent vraiment l'idée de la liberté, mais qui auront un aspect différent, bien sûr, suivant les périodes, puisque la liberté pourra être apaisée, au contraire, elle va exalter le peuple au combat, enfin, quand elle est représentée sous le trait d'une allégorie.
Et suivant les collections aussi, puisque ce sont deux musées en fait de la ville de Bordeaux qui s'associent, donc le musée des arts décoratifs et du design et le musée des beaux-arts. Donc effectivement, on présente des objets, on présente des tableaux, des œuvres graphiques, des œuvres en trois dimensions. Et la lecture de la liberté lorsqu'on est face à ces œuvres est différente en fonction qu'on regarde une pendule en porcelaine de Niederwiller ou effectivement.
Mais pourquoi la pendule? On peut se poser la question.
Mais oui, pourquoi la pendule? Pourquoi on arrive dans une exposition sur la liberté? On tombe face à une pendule parce que cette pendule, ces pendules entre autres sont présentées dans une section qui, après avoir justement resitué les définitions de la liberté, montre que finalement on est dans l'effervescence du siècle des Lumières, de cette soif de savoir, de connaissance et de diffuser cette connaissance. C'est le grand siècle des dictionnaires. S'il y a des dictionnaires, c'est pour diffuser. On a des dictionnaires de commerce, des dictionnaires, évidemment l'encyclopédie. Et cette soif de diffusion fait que le savoir se répand. Le savoir et le savoir-faire et le progrès scientifique se répand. Et au XVIIIe siècle, des progrès sont faits par exemple en matière d'optique pour des instruments scientifiques et en matière aussi d'horlogerie. Et l'horloge, la montre, c'est aussi une forme de liberté, c'est l'individualisation du temps. On va pouvoir organiser aussi ses journées. Donc en fait, on montre à la fois comment la libération des savoir-faire, des connaissances amènent le progrès dans la fabrication de l'objet et à la fois comment cet objet a une résonance dans le quotidien et dans la manière dont on peut se l'approprier.
Et c'est pas du tout la même chose, merci Caroline Fillon pour cette précision, mais c'est pas du tout la même chose que de parler de la liberté en temps révolutionnaire.
Il y a la représentation de la liberté, il y a la manière dont la liberté a une incidence sur notre quotidien et effectivement, au-delà de ces grandes thématiques, il y a des rencontres, des moments d'histoire, des chocs, comme effectivement les révolutions, qui vont faire de la liberté, je dirais presque un langage symbolique, un discours, un message qu'on va faire passer, une identité que l'on va prôner, que l'on va revendiquer et qui va apparaître sous la forme effectivement d'allégories, qui va être incarnée par des personnages dont on va faire les portraits et également par presque des ce qui est devenu presque des motifs décoratifs, le bonnet phrygien, le faisceau du lecteur, le drapeau bleu blanc rouge, etc.
Isabelle Bexia.
Oui, alors par rapport justement au philosophe, à l'époque des Lumières, l'exposition débute avec cet aspect, avec les grandes figures de la philosophie sous l'aspect de sculptures ou de tableaux. Il y a des célèbres œuvres qui sont exposées, notamment de Houdon, Le Moine, donc avec, on retrouve vraiment les grands philosophes, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Et à Bordeaux, bien sûr, c'est important, ces présences. Et il y a vraiment cette idée de philosophes qui se sont intéressés à la science et qui ont eu un intérêt vraiment pour la vulgarisation des connaissances, mais avec la science. Donc le fait que ce soit rapproché d'objets scientifiques et qui demandent un certain mécanisme, c'est très important. Et l'exposition rappelle que ce siècle aussi incarne une idée où il y a un esprit critique, un rationalisme, mais aussi la sensibilité. Et on rappelle aussi les difficultés qu'ont rencontrées ces hommes, puisqu'ils ont souvent été censurés. Et il y a un très beau tableau dans la salle, justement, où se trouvent les fameuses pendules du peintre Vincent, qui illustre une leçon de labourage et qui rappelle les propos de Rousseau dans L'Émile, qui dit que l'agriculture est un des arts les plus respectables, mais qui rappelle surtout justement cette nouvelle vision de la société, et l'éducation, bien sûr, est un des thèmes abordés.
Et l'autre thème, c'est bien sûr la liberté, tantôt menacée, tantôt acquise, la liberté qui nécessite qu'on se batte pour elle.
Qui nécessite qu'on se batte pour elle.
Et Caroline Fillon, ouais.
Effectivement, ceux qui se battent pour elle vont acquérir ou brandir cette liberté. Et ceux qui sont en face ne considèrent pas justement ce moment comme un moment de liberté. C'est ça aussi qu'on a voulu mettre un petit peu en exergue dans l'exposition. À la fois par les définitions et à la fois par les pièces qui sont présentées. Toute une partie sur l'iconographie révolutionnaire, effectivement, qu'on citait tout à l'heure, ou les grands martyrs de la liberté, et dans le même espace, on présente des pièces sur lesquelles figure ce qu'on appelle l'image séditieuse. L'image séditieuse, alors pour vous resituer rapidement le contexte, donc pendant cette révolution, eh bien il ne faisait pas très bon être nostalgique de la monarchie, et donc s'est développé une sorte de presque une sorte de code secret, d'image cachée comme une image d'Épinal, où lorsqu'on regarde une urne, les branches d'un saule pleureur apparaissent en négatif les profils de la famille royale. C'était une sorte de signe de ralliement des monarchistes pendant la Révolution.
Voilà, et au nom de la liberté, il s'exprimait ainsi.
Oui, c'était effectivement une forme d'expression qui leur permettait d'affirmer leur présence et leur fidélité au roi défunt.
Et puis un exemple qui prend de la place sous l'intitulé La liberté ou la mort, et ben c'est la guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs, contre l'Empire ottoman.
Voilà, avec un tableau emblématique du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, La Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, une œuvre exécutée en 1826, qui présente une femme sur des ruines, à ses pieds un homme mort avec un bras sur un canon, donc c'est vraiment l'idée de nombreuses victimes. Il y a surtout un mur avec des têtes coupées qui dégoulinent de sang, et cette œuvre, elle rappelle justement la situation de la Grèce qui était menacée par l'Empire ottoman. Et l'exposition comporte de très nombreux documents qui relatent aussi toute l'ambiance de l'époque, hein. Victor Hugo le disait dans Les Orientales en 1829, l'Orient est une préoccupation générale aussi à ce moment-là, et on a la chance d'avoir des dessins prêtés par le Louvre, des dessins de Delacroix qui mettent en scène Byron, le poète. Donc Delacroix fait probablement allusion dans La main de l'homme mort au premier plan. Peut-être aussi fait-il référence à Géricault qui vient de mourir. Mais dans ce tableau, c'est vrai, la Grèce sur les ruines de Missolonghi, on est vraiment devant une allégorie qui avait fait sensation à l'époque, même si Victor Hugo disait qu'il n'aimait pas les allégories. Mais il trouvait celle-ci remarquable, puisque la Grèce était très belle, autant dans son attitude et dans son expression. Et surtout, devant l'œuvre, on est aussi fasciné par la technique du peintre, son pinceau large et fier, hein, pour reprendre les termes de l'auteur. Et voilà, c'est vraiment une mise en scène d'un peuple qui lutte pour sa liberté dans l'œuvre de Delacroix. Et surtout, ce qui frappe à cette époque, c'est qu'on représente l'actualité. On n'est plus penché sur le passé, on représente les moments présents et on cherche vraiment à toucher le public, enfin les contemporains.
Et les femmes sont très très présentes pour représenter, pour incarner la liberté dans cette exposition, la passion de la liberté des Lumières au romantisme.
Oui, Émilie Duchâtelet, scientifique, a traduit Newton, qui s'est intéressée à l'énergie cinétique, compagne de Voltaire. On trouve aussi Madame de Staël. Donc c'est vraiment une exposition qui rappelle que les femmes, pour certaines, ont réussi à s'émanciper et à développer des idées des Lumières. Et on peut rappeler aussi leurs difficultés, puisque...
Non, mais y compris chez les hommes, oui. La femme incarne dans leur toile la liberté, n'est-ce pas?
Qui guide le peuple.
Qui guide le peuple. On n'a pas en parler. La pièce maîtresse, qui n'est d'ailleurs pas exposée chez vous.
Hein. Non.
Mais elle est évoquée. Hein.
Trop évident, je suppose.
Voilà. Mais on l'aborde avec une vidéo d'une artiste espagnole, Cristina Luca, qui a revisité l'œuvre, elle a réinterprété pour dénoncer des aspects négatifs de la démocratie ou la situation de la femme dans le monde. Voilà, donc il y a quand même une approche de l'œuvre et puis de très nombreux dessins, notamment du Carpeau. Il y a des œuvres qui font référence, bien sûr, à l'œuvre de Delacroix.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Silence, le moral du cadavre, la paix de cimetière. Oh, Balango, libérez, libérez la liberté, libérez le peuple fâché. Oh, libérez la roue à tourner.
La passion de la liberté des Lumières au romantisme. On vient d'écouter Pierre Akadenge, qui va très bien avec cette exposition, avec l'esprit de cette exposition à Bordeaux, à la Galerie des Beaux-Arts, jusqu'au 13 octobre. Je suis avec les deux commissaires de l'exposition, Caroline Fillon et Isabelle Bexiab. Donc, on a parlé de la liberté d'un peuple, d'une nation, dans un contexte historique, politique, révolutionnaire. Mais l'exposition nous invite à aller plus loin, de questionner ce concept de liberté, en parlant de la liberté de l'esprit, de la liberté des corps, et donc du coup du libertinage. Et puis, très intéressant, on va en parler aussi de la liberté d'entreprendre et du libéralisme économique.
Donc la liberté d'entreprendre le corps d'abord, donc dans l'ordre des sujets. Effectivement, il y a une section sur le libertinage. Alors le libertinage, c'est intéressant parce que c'est un thème évidemment intrinsèque au XVIIIe siècle, qui est très lié aussi à la philosophie, évidemment à la littérature.
Pour aller très vite, cette exposition, c'est quand même le XVIIIe et XIXe siècle.
Voilà, XVIIIe et XIXe. Et c'est vrai que le libertinage, comme la liberté, a changé de sens. À la base, ça signifie affranchi, et affranchi de la religion. Et puis, petit à petit, affranchi des normes, affranchi des règles, et une vie finalement un petit peu légère. Et c'est le XVIIIe siècle qui a orienté la connotation du libertinage vers le domaine de la sexualité et des mœurs.
Et ça donne quoi au niveau des œuvres artistiques exposées, Isabelle Bexia?
Alors, de nombreux objets, mais aussi des tapisseries. Là, c'est toute une ambiance de la volupté. Voilà, c'est un boudoir qui a été reconstitué dans l'exposition, qui évoque bien sûr la sensualité et les artistes majeurs qui ont traité le sujet. Alors après, on retrouve aussi des ouvrages comme le célèbre texte de Diderot avec les bijoux indiscrets, lui qui avait un petit peu critiqué justement les libertins. C'est assez intéressant de trouver l'ouvrage à côté, ça rappelle aussi tout ce contexte. Voilà, donc c'est toute une ambiance qui a été créée et qui plaît beaucoup aux visiteurs.
Hein. J'imagine pourquoi. Et sinon, pour tout aussi important, mais alors là, pour le coup, assez inattendu, le libéralisme tel que vécu par les artistes. Alors là, c'est un discours que vous avez développé autour de quelques œuvres, où c'était vraiment quelque chose qui importait les artistes que de représenter le libéralisme.
Alors, c'était vraiment quelque chose qui importait, parce que il y a effectivement les artistes qui sont évoqués dans l'exposition, mais aussi les artisans. Donc on est toujours sur ce mode binaire, hein, beaux-arts et art décoratif. Et qu'est-ce que la liberté dans les arts décoratifs? L'art décoratif, c'est l'artisan, c'est son savoir-faire, mais c'est aussi le matériau. Ce sont des produits ou des objets, des denrées exotiques qui vont transiter dans les ports et qui vont stimuler l'imagination d'un artisan, de nouveaux matériaux qu'il va découvrir, qu'il va associer à des anciens. Et donc finalement, la liberté de commerce, la liberté d'entreprendre, la liberté économique, le libéralisme, en fait, il est central dans la notion de liberté au XVIIIe siècle et par la suite.
Même si là, c'est dans le sens noble du terme, hein, le libéralisme, tel que vous le présentez dans cette exposition.
Dans le sens des philistins, les philistins qui l'ont défini à l'époque et qui ont prôné les premières mesures de libéralisme, de baisse de taxes douanières, etc. Et pour l'illustrer, c'était là que c'était compliqué, mais finalement, on l'illustre à travers les objets qui sont le fruit de cette richesse qui a été mise en place grâce au commerce. Alors richesse évidemment monétaire, mais pas que. La richesse de matériaux, les lacs, les porcelaines qui venaient d'Orient.
La faïence aussi.
La faïence, exactement, qui va imiter juste la porcelaine. On ne sait pas encore fabriquer la porcelaine dure en Europe. Mmh. Et voyant les pièces de porcelaine qui arrivent, eh bien on en récupère les décors. Donc on va essayer de parfaire les techniques et les recettes de faïence pour imiter la porcelaine. Donc ça stimule l'artisanat.
Et puis surtout les échanges avec la Chine, avec le Japon, avec des mondes lointains.
Avec toutes les contrées lointaines du globe. Et qu'est-ce qu'on échange? Ben voilà, on échange autant des produits qui sont des denrées alimentaires, des boissons, le thé, le chocolat, le café. Ça va demander à inventer des objets pour préparer et pour servir ces boissons chaudes, donc théière, cafetière, sucrier, pince à sucre. C'est vrai qu'on pourrait s'étonner de les voir dans une exposition sur la liberté, mais c'est la base de cette liberté économique.
et le parcours se termine avec les utopies ou la liberté de rêver. S'il fallait, justement, pour terminer cette émission, avec vous, Caroline Fillon et Isabelle Bexia, prendre juste un objet, une toile, et de raconter l'utopie dans le mot utopie de la liberté.
Voilà, alors, utopie dans l'exposition, ça, c'est une section qui parle des architectes qui ont osé rêver une architecture adaptée à tous, et notamment le célèbre architecte Ledoux, qui avait l'idée de, par exemple, dans le cadre du théâtre de Besançon, d'une architecture qui permettrait d'entendre et de voir de la même façon une égalité devant un bâtiment aussi. Hein. Voilà, mais après dans l'exposition, c'est vrai qu'on chaque artiste va incarner aussi sa vision de la liberté, et c'est vrai qu'on a tous des œuvres qui vont peut-être plus ou moins nous intéresser, mais c'est vrai que l'œuvre de David Marat représente vraiment une émancipation de la part d'un artiste, puisqu'on disait que c'en était fini des vandelots, des bouchers, des restos, et qu'enfin un peintre régénérait la peinture et apportait une vision très libre. Et c'est vrai que l'exposition a la chance de présenter et donne l'opportunité au public de découvrir deux œuvres très très importantes. Il s'agit du célèbre tableau qui représente Marat à côté de celui de Barat, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir confronter les deux œuvres et de voir à quel point ce sont des peintures qui ont fasciné les contemporains par le sujet qui et la manière de le traiter aussi, puisqu'on traite des sujets d'actualité. On représente Marat qui vient d'être assassiné dans sa baignoire, voilà, sans décor, de manière... il n'est pas du tout représenté dans la tradition, et c'est un tableau qui, encore aujourd'hui, stupéfait et frappe les visiteurs.
Et enfin, pour terminer avec vous, Caroline Fillon.
Et pour faire écho à cette section sur le libéralisme économique, je choisirai un moulin à café, un petit moulin à café d'une dizaine de centimètres de haut à peine, en trois ores différentes. On voit donc sur le pourtour du moulin à café des grains de café qui sont ciselés, qui sont moulurés, et des nuances d'or, rose, vert, différents sur ce moulin à café qui a appartenu à Madame de Pompadour pour son hôtel d'Evreux. L'actuel palais de l'Élysée, et qui est une pièce du Louvre qui normalement est présentée et dont on nous a très aimablement autorisé le prêt pour cette exposition.
Mais c'est incroyable, hein ?
Donc ça fait partie des chefs-d'œuvre effectivement qu'il faut venir voir à Bordeaux.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est vraiment que cette exposition, elle rappelle la collaboration avec le Louvre et une convention de 3 ans qui permet à la fois d'organiser des expositions, des échanges scientifiques et artistiques, mais également des prêts et des dépôts d'œuvres en province et notamment à Bordeaux. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important, ce partenariat.
Et pourquoi avoir choisi ce siècle de bascule ? Enfin, la réponse est incluse dans la question, mais quand même, j'ai envie de vous entendre, Caroline Fillon.
Sur le choix de la chronologie,
ouais.
Alors les lumières, évidemment, les lumières par la réflexion, par l'émulation qui a lieu à cette époque, était un petit peu la base, le point de départ. Et c'est vrai qu'on voulait montrer aussi que tout ne s'arrête pas à la Révolution. Effectivement, on parle de choc des révolutions, mais finalement, la Révolution, on continue quand même à certains aspects à vivre comme auparavant. On s'interroge sur la notion de liberté. La France invente une nouvelle définition de la liberté, c'est digne d'être précisé, puisque des dictionnaires étrangers, dictionnaires autrichiens par exemple, disent voilà, la France a inventé la définition citoyenne de la liberté. Et on voulait voilà montrer aux visiteurs comment cette thématique se prolonge au 19e siècle, puisque on parle toujours de la révolution de 1789, mais il y a eu plusieurs révolutions en France et dans le monde qui vont interroger et secouer cette notion de la liberté.
Et qui ont interrogé et secoué aussi les artistes. On le voit aussi.
Secouer effectivement aussi les artistes pour des questions de censure, parce que effectivement c'était, on prenait la liberté, mais il y avait encore des censures.
Oui.
Montesquieu, voilà, fait publier.
David va être incarcéré. Enfin,
David voilà, est incarcéré. Ça... Montesquieu fait publier l'aide personne à l'étranger. Donc voilà, finalement, la liberté, elle est jamais dans l'absolu. Elle est toujours par rapport à quelque chose, à un moment donné, à un instant précis. Et c'est pour ça, on disait tout à l'heure, l'exposition n'apporte pas de réponse, mais elle invite le visiteur à vraiment s'interroger sur, même encore aujourd'hui, cette notion de liberté.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
La passion de la liberté, des lumières au romantisme, c'est jusqu'au 13 octobre à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux. Merci aux deux commissaires d'être venus ce matin, Caroline Fillon et Isabelle Bexia, merci beaucoup. Merci. Belle journée à vous, nous on se retrouve demain à la même heure.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture, à midi, la grande table, Olivia Gesbert.
Après la France, elle a conquis l'Amérique avec ses femmes culottées. Lauréate cet été d'un Eisner Award, la plus prestigieuse récompense en BD, la dessinatrice Pénélope Bagieu est ce mardi notre première invitée. Rejointe par une figure de la vie intellectuelle, à 98 ans, le sociologue Edgar Morin nous offre une traversée intellectuelle du siècle et une leçon de sagesse.
La grande table, le magazine de la culture et des idées, ce mardi à midi et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La rupture entre Washington et les talibans afghans est actée. Donald Trump le précise, quand sur place les risques d'attentats sont toujours aussi importants. Rencontre avec l'ambassadeur de France à Kaboul en début de journal. Nous vous expliquerons aussi comment l'Organisation mondiale de la santé tente d'endiguer le nombre de suicides dans le monde. Ils sont très nombreux en Corée, au Japon, en Russie ou en Afrique de l'Ouest, selon un rapport publié hier. Une trentaine d'associations en France refusent que le 115 transmette la liste des réfugiés hébergés. Elle dépose donc un recours devant le Conseil d'État, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis nous donnerons la parole à un représentant syndical chez Aigle Azur. 14 offres ont été déposées pour reprendre la compagnie aérienne. Donald Trump a martelé hier encore que les négociations avec les talibans en Afghanistan étaient terminées pour de bon, dit-il. Des propos qui tranchent avec ceux du chef de la diplomatie, Mike Pompeo, qui n'avait pas, lui, exclu un peu plus tôt une reprise des discussions avec les insurgés. Pas de rencontre secrète donc à Camp David et un pays, l'Afghanistan, où le terrorisme continue de faire le plus de morts dans le monde. À Kaboul, notre envoyé spécial Valérie Crova a rencontré l'ambassadeur de France, contraint à une sécurité drastique.
Pour entrer dans l'enceinte de l'ambassade de France de Kaboul, il faut passer deux immenses portails métalliques coulissants. Dans la cour, des sacs de sable protègent deux postes de tir. À droite, des plaques rappellent les noms des 90 soldats français morts en Afghanistan depuis 2000 ans. Bonjour. Nous sommes accueillis par Roméo, un colosse de 2 mètres. Ils sont 7 policiers du RAID à assurer la sécurité de l'ambassadeur 24 heures sur 24. David Martinon, 48 ans, ancien porte-parole de l'Élysée, est en poste à Kaboul depuis un an. En plus de ses activités de diplomate, son quotidien est rythmé par des exercices.
Il faut se préparer à sortir d'un bâtiment officiel si le bâtiment est attaqué. Il faut se préparer à sortir de son véhicule si une mine magnétique lui est accolé. On s'entraîne surtout à se mettre très très rapidement en confinement de sécurité s'il y a une attaque.
Et des attaques, il y en a presque tous les jours à Kaboul.
Il n'y a pas de semaine sans que nous devions nous lever en pleine nuit et nous précipiter dans la safe room. C'est une chambre forte où on peut tenir quelques heures, voire quelques jours, et où l'équipe de sécurité peut tenir le siège.
En mai 2017, l'ambassade de France a subi d'importants dégâts suite à un énorme attentat à proximité qui avait fait 200 morts, le plus meurtrier depuis 2002.
Valérie Crova à Kaboul pour France Culture. Quel est l'état actuel des forces chez les talibans? Nous en parlerons dans les enjeux internationaux avec Julie Gacon. Ce sera à 6h45. La Corée du Nord a lancé cette nuit 2 projectiles non identifiés en direction de la mer. L'agence de presse sud-coréenne l'annonce au moment où Pyongyang a proposé de reprendre les négociations avec Washington, négociations qui sont au point mort depuis février dernier. Les députés britanniques refusent à nouveau des élections anticipées. Ils l'ont voté hier et ils ont voté contre l'avis de Boris Johnson, le Premier ministre. Dans la foulée, le Parlement a été suspendu jusqu'au 14 octobre prochain. Ce chiffre à présent inquiétant, alarmant. Une personne se suicide toutes les 40 secondes dans le monde, soit 800 000 par an. En cette journée mondiale de prévention, l'Organisation mondiale de la santé demande aux États d'agir, Jérémy Lanche.
Si le taux de suicide est globalement en baisse, autour de 10,5 cas pour 100 000 habitants, certains pays ou certaines régions sont plus concernés que d'autres, comme la Corée, l'Inde, la Russie, les pays d'Europe de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Et pour diminuer le nombre de suicides, il faut comprendre comment les personnes passent à l'acte. Alexandra Fleischmann est responsable du département santé mentale à l'OMS.
Dans les pays les plus pauvres et dans les zones agricoles, vous trouvez beaucoup de suicides par ingestion de pesticides. Dans les pays développés et en Europe, il y a plus d'empoisonnement par médicament parce qu'ils sont facilement accessibles. L'une de nos recommandations principales, c'est donc de diminuer la taille des paquets de médicaments pour qu'ils correspondent exactement à la prescription.
L'OMS note par ailleurs l'effet bénéfique de l'interdiction de certains pesticides très toxiques quand ils sont ingérés. Au Sri Lanka, la mesure aurait déjà permis de sauver près de 100 000 vies depuis 1993. Le rapport insiste également sur les jeunes. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. L'OMS recommande une identification plus précoce des situations de mal-être, un meilleur accompagnement des personnes et le rejet de toute forme de glamourisation du suicide dans les médias et sur les réseaux sociaux.
29 associations de solidarité ont déposé un recours devant le Conseil d'État hier. Elles refusent que le 115 transmette la liste des réfugiés hébergés en France. Une instruction ministérielle qui avait été publiée en juillet dernier et qui oblige dans les faits les gestionnaires d'hébergement d'urgence à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des réfugiés et des demandeurs d'asile hébergés. Les associations donc y voient une rupture d'égalité. Florent Guéguin, directeur général de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, s'en explique.
Nous y voyons des risques très très importants. D'abord, le 115, c'est un service d'accueil d'urgence universel pour toute personne à la rue, que les personnes soient étrangères ou pas. Vous savez, la loi en France est très claire. Toute personne à la rue a droit à un hébergement et on ne regarde pas son statut administratif ni sa nationalité. Donc nous pensons que cette circulaire finalement rompt avec l'égalité de traitement des personnes à la rue, en créant une sorte de discrimination à l'encontre des étrangers dans l'accès à l'hébergement. C'est ce qu'on appelle la rupture de l'accueil inconditionnel dans l'hébergement. Et puis nous pensons aussi que cette circulaire, finalement, viole un certain nombre de règles prévues par la loi de protection des données personnelles et individuelles des personnes les plus pauvres, puisque dans la transmission de ces fichiers au ministre de l'Intérieur, il y a des éléments sur le statut administratif, sur la nationalité, sur la situation sociale des personnes, sur la situation de santé des personnes. Je crois que ça interroge. Est-ce qu'on est encore dans un état de droit lorsque le ministère de l'Intérieur finalement constitue des fichiers sur les personnes les plus pauvres de ce pays? Ce sont ces questions que nous posons au Conseil d'État et nous espérons obtenir, si ce n'est l'annulation, en tout cas la suspension de ce texte qui est un texte dangereux pour les personnes à la rue.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Les urgentistes se disent déçus par les annonces d'Agnès Buzyn. Le collectif à l'origine de la grève qui dure depuis 6 mois maintenant organise aujourd'hui une assemblée générale pour décider de la suite à donner au mouvement. La CGT, elle, maintient son appel à manifester prévu demain. La ministre de la Santé, rappelons-le, a promis hier 750 millions d'euros pour répondre à la crise dans les urgences. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h. Avant cela, cette autre réaction, celle des salariés d'Aigle Azur. Alors que l'on apprenait hier que 14 propositions de reprise avaient été déposées, notamment par Air France et Air Caraïbes. Des propositions qui restent floues, souligne Denis Sanchez. Il est représentant du SNPNC Force Ouvrière. Et au micro d'Hakim Kasmi, il se veut prudent.
Il n'y a pas de meilleure offre. Il y a des offres plus réelles que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu cette latitude et cette envie de montrer que pour eux, il y a un certain intérêt et ils affichent d'ores et déjà certains points qui leur semblent importants de mettre en avant. Mais ça ne veut rien dire. Et le tout, c'est de reconstituer, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une offre et une seule qui reprenne l'ensemble de l'activité, l'ensemble du personnel, surtout de nos emplois, ou que ça se fasse avec deux offres qui seraient jumelées et qu'au final, on préserve tous les emplois. Nous, on reste sur ce cap, en tout cas, SNPNCFO et moi-même. Et je crois que là, tous les membres du comité d'entreprise, tous les salariés sont unanimes. On veut préserver l'intégralité de nos emplois d'une manière ou d'une autre.
Et ce n'est que lundi prochain ensuite que le tribunal de commerce d'Evry désignera le ou les repreneurs d'Aigle Azur. Il n'est pas question de manque d'argent en Chine chez Alibaba, bien au contraire. La plateforme géante de commerce en ligne se porte à merveille et son fondateur Jack Ma en profite pour quitter l'entreprise fondée en 1999. L'homme d'affaires pionnier de l'économie numérique en Chine laisse derrière lui un empire, Dominique André.
Cette fois, c'est du sérieux. L'excentrique Jack Ma quitte le navire Alibaba, numéro 1 du commerce en ligne en Chine. 103 000 employés travaillent pour le groupe. Chaque mois, près de 700 millions de consommateurs font leurs achats sur ces plateformes en ligne, dont la plus connue est Taobao, qui vend de tout et livre dans des temps records dans les zones les plus reculées de Chine. Le succès planétaire de Jack Ma fait la fierté de la Chine. La presse officielle aime rappeler les débuts de l'ancien professeur d'anglais qui, en 1999, fonde Alibaba dans son modeste appartement de Hangzhou dans l'est de la Chine avec 60 000 dollars empruntés à des amis. Depuis son entrée en bourse à Wall Street il y a 5 ans, Alibaba poursuit sa course, ignorant la crise économique et la guerre commerciale sino-américaine, avec un chiffre d'affaires en hausse de 42% d'avril à juin dernier. Le multimilliardaire, qui est membre du Parti communiste, a déjà passé le flambeau à une équipe discrète qui va poursuivre le développement dans le cloud, le secteur de l'informatique en nuage, et le paiement numérique sans espèces. Mais il faudra aussi lutter contre la vente des produits contrefaits, une tâche dans la réussite du groupe. À 55 ans, le milliardaire retourne à ses premières amours, l'éducation qu'il veut soutenir. L'homme le plus riche de Chine rêve de se transformer en philanthrope, tel son modèle américain Bill Gates. Sa fortune personnelle est estimée à près de 32 milliards d'euros.
C'était Dominique André en Chine pour France Culture. En France, il pleut ce mardi sur le sud de la France. Partout ailleurs, les nuages seront bien présents et les températures restent fraîches avec 15 degrés ce matin à Nantes, 16 à Strasbourg, Lyon, 18 à Paris et à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et voilà un calendrier qui vous tient à cœur pour votre journal des idées, c'est la rentrée littéraire. Cette année Jacques, le nombre d'ouvrages en langue française a réduit, oui. 336, dont 82 premiers romans. Le chiffre est au plus bas depuis 20 ans.
Oui, selon le décompte de Livre Hebdo avec la littérature étrangère, 188 ouvrages, un chiffre stable. Ce sont donc 524 romans qui seront publiés cette année contre 567 l'an dernier. Il est vrai qu'avec les chiffres précédents, on frôlait la surproduction, d'autant que le volume global des ventes a baissé de 4,38% en 2018 par rapport à 2017 et de 5,7% pour la seule littérature, d'après le Syndicat national de l'édition. La rentrée, avec en ligne de mire les prix littéraires et les fêtes de fin d'année, est une période stratégique pour les éditeurs. Elle représente le quart des ventes. D'où l'atmosphère fiévreuse que Julien Gracq avait déjà stigmatisée dans son célèbre pamphlet sur la littérature à l'estomac. Dans le milieu littéraire, pour les critiques comme pour les écrivains, certains d'entre eux en tout cas, ce qui fait un livre, c'est le bruit, pas celui d'une rumeur essentielle qui sourdrait de l'œuvre elle-même, mais celui du tapage accompagnant sa sortie cette année. Nous sommes gâtés, question bruit, dès l'ouverture de la saison, avec des relents d'antisémitisme rémanent, suivez mon regard, un penchant favorisé par la vogue constante de l'autofiction. L'autre grande tendance, qui se confirme aussi cette année, cette rentrée, c'est celle de la littérature du réel, comme l'observe Raphaël Léris dans lemonde.fr, avec notamment la question du terrorisme qu'évoque sur le mode du témoignage Thierry Vimal, qui a perdu sa fille le 14 juillet 2016 à Nice, dans 19 tonnes au Cherche Midi. Eris, le directeur de Charlie Hebdo, dans 1 minute 49 secondes, publié chez Actes Sud. Le sujet du djihadisme nourrit aussi les fictions d'attendre un fantôme de Stéphanie Calfon chez Joël Losfeld, ou la dernière fois que j'ai vu Adèle d'Astrid Eliard au Mercure de France. Le site de critique littéraire En attendant Nadeau a publié cet été un grand dossier sur le thème de l'enquête, avec parmi d'autres l'article de Dominique Viard sur les littératures de terrain, à la manière de Zola, mais sans résorber comme lui dans l'écriture du roman la documentation accumulée en amont, cette nouvelle forme littéraire implique l'écrivain au cœur de la recherche et du trajet qu'elle dessine, ses trouvailles, ses impasses, ses difficultés, ses rencontres, ses surprises, ses réorientations, l'expérience humaine qu'elle constitue, une sorte de porosité des frontières avec l'enquête ethnographique en résulte, et comme en retour, certains anthropologues comme Éric Chauvier adoptent une écriture quasiment romanesque sur les traces d'une jeune mendiante rome aperçue à un carrefour puis perdue de vue, l'enquête se transformant en récit d'une disparition et d'une recherche avec une réflexion sur la notion de travail que représente l'acte de mendier, c'est Anthropologie, publié chez Alia. L'époque à fin de réel de réel, de réalité, constate Laurent Demance dans un nouvel âge de l'enquête publié chez Corti. Dans le discours de l'histoire, Roland Barthes pointait déjà une tendance à l'œuvre dans les textes documentaires, journaux intimes, faits divers, reportages, pour capter le prestige du « c'est arrivé », une exigence d'attestation qui s'est confirmée au point que certains critiques parlent d'un tournant documentaire en littérature. Les enquêtes contemporaines, relève l'auteur, n'ont pas pour ambition de représenter le réel, mais d'interroger les conditions de sa fabrique, d'inquiéter les institutions qu'il construise et de questionner les conditions de son exploration. Là aussi, une poétique de l'enquête tend à brouiller les frontières disciplinaires, comme chez certains historiens. L'investigation biographique compose des exercices d'empathie pour rejouer le meurtre d'un grand-oncle dans « Vie et mort » de Paul Génie, de Philippe Artière, ou encore dans « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu » d'Ivan Jablonka. La monarchie de juillet, disait Walter Benjamin, est le moment où l'homme privé a accédé à la tribune de l'histoire. Et dans notre monarchie de juillet bis, la privatisation du commun et des services publics va bon train, affirme Régis Debray dans Le Figaro. Il évoque son dernier livre intitulé « Du génie français » publié chez Gallimard, où il imagine que la société des gens de lettres doit choisir qui représente le mieux l'écrivain national. Les finalistes sont Stendhal et Hugo, et il choisit de plaider pour l'auteur des Misérables plutôt que pour celui de la Chartreuse de Parme. L'inconscient collectif en France a toujours eu deux cordes à son arc. La Stendhalienne rentre bien dans l'esprit français, version carte postale, prestesse, élégance, clarté, sourire en coin et clin d'œil. Mais pour lui, pour Régis Debray, un génie national, c'est charnel, émotionnel et corsé. C'est ancré dans une géographie qui traverse les âges. Hugo sans l'iode, la tempête, le gouffre. Et chez lui, le journaliste est de type transcendantal. Il transfigure l'actu en symbole et la chose vue en mythe. 6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux, aujourd'hui, une question. Les talibans ont-ils les moyens de faire souffrir l'Amérique comme ils l'ont promis?
Oui, c'est ce dont ils ont menacé les États-Unis pour les punir de s'être retirés précipitamment des discussions en cours depuis plusieurs semaines. Discussions américano-talibanes et non américano-afghanes, puisque le pouvoir en place à Kaboul en était exclu. Donald Trump a donc, sur un de ses coups de sang dont il a l'habitude, décidé de mettre fin à ce dialogue qui devait engager chaque camp sur de bonnes résolutions après le départ des troupes américaines du pays. Il faut dire que pendant tout le temps qu'ont duré ces négociations menées à Doha au Qatar, des attentats ont continué à viser sur le terrain les troupes occidentales. Bonjour Adam Batchko.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan. Adam Batchko, les attentats commis tout au long des négociations, dont le dernier en date jeudi dernier à Kaboul, ont-ils été commandités, ont-ils été diligentés par ces mêmes talibans assis à la table avec les Américains? Est-ce que c'est les mêmes?
Oui, tout à fait. Hein. Les talibans sont un mouvement qui est à la fois unitaire, organisé, hein. On a longtemps considéré à tort ce mouvement comme fragmenté, et c'est bien le même mouvement qui avait comme stratégie de mener la guerre aussi durement que possible pour progresser sur le terrain et en même temps de mener des négociations dans le but d'accélérer un retrait américain qui serait à leur avantage.
Est-ce que ça veut dire que les négociateurs talibans et les responsables sont complètement légitimes auprès de tous les talibans d'Afghanistan, notamment quand ils prennent l'engagement de ne pas abriter de groupes djihadistes après le retrait des Américains? Ça n'a pas créé de dissension?
Ça en a créé très marginalement, mais ce qu'on a vu dans le passé, c'est que les talibans sont relativement aptes à assurer la discipline dans leur rang. Hein. C'est un mouvement qui n'a pas hésité à utiliser la force quand des commandants talibans ont refusé d'obéir à leur hiérarchie. Et donc, si on ne pouvait pas prédire les résultats de ce que le commandement taliban aurait fait, une chose est certaine, c'est que les talibans ont cette capacité à se faire obéir par leurs commandants sur le terrain.
Quand ils menacent de faire souffrir l'Amérique, en ont-ils les forces aujourd'hui? Comment comptent-ils s'y prendre puisque les soldats américains vont se retirer?
Non, la formule est largement grandiloquente. Hein. Bien sûr, les talibans n'ont pas les moyens de faire souffrir l'Amérique, et les talibans sont habitués à ce genre de formule excessive. Ce que les talibans ont les moyens de faire, c'est de progresser militairement en Afghanistan, hein, et de progresser aux dépens du gouvernement qui est soutenu par les États-Unis. C'est vraiment la seule chose qu'ils ont les moyens de faire, mais ça, ils ont les moyens de le faire.
Progresser où alors, en l'occurrence? Où sont leurs cibles? Où est-ce qu'ils ont envie de s'implanter davantage?
Mais leur but est de prendre Kaboul, et en fait, depuis 3-4 ans, les talibans progressent sur le terrain, hein, dans les zones rurales afghanes. On l'entend moins parce qu'il y a moins de correspondants de presse, parce qu'il y a moins d'organisations internationales dans les campagnes afghanes, mais en fait, les talibans progressent, et leur but, c'est de prendre des villes. Et à terme, leur but, c'est de prendre Kaboul.
Est-ce qu'on sait combien ils sont aujourd'hui, le nombre de combattants sur lesquels les talibans peuvent compter aujourd'hui? L'administration américaine n'en comptait qu'un millier en 2004. On est 15 ans plus tard.
Les chiffres ont toujours été très contestés, très approximatifs. On savait qu'ils sont devenus quelques dizaines de milliers. Il ne serait pas étonnant qu'ils ne soient pas très loin d'une centaine de milliers de combattants sur l'ensemble du pays, mais c'est des chiffres qui sont évidemment très difficiles à vérifier. Hein. Quelques dizaines de milliers de combattants est un très grand minimum, une centaine de milliers de combattants un maximum, mais donc c'est un appareil qui est capable vraiment d'organiser des attaques. Ils ont des forces spéciales, plus entraînées, qui tournent entre les différentes régions du pays. Ils ont des groupes spéciaux, ils ont une capacité de mener des attaques simultanées. Enfin, c'est maintenant un appareil militaire qui, s'il n'y avait pas la couverture aérienne de l'Air Force américaine et des troupes occidentales qui régulièrement ont dû intervenir pour sauver l'armée afghane, serait capable de prendre une grande partie des villes, voire de faire tomber l'appareil sécuritaire de Kaboul.
Adam Matchko, est-ce que les talibans ont changé depuis 2001? En 18 ans, ils ont vieilli, d'accord? Ou alors ils ont rajeuni si les plus anciens ont déjà été remplacés dans leur idéologie, mais surtout dans leur stratégie? Qu'est-ce qui a pu changer en 18 ans?
Oui, ils ont changé. Alors, il faut pas se leurrer. Hein. Ils sont pas devenus ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais là où ils ont vraiment changé, et c'est étonnant à voir, c'est à quel point ils ont entendu la nécessité de se faire reconnaître sur le plan international. Hein. On l'a vu pendant ces négociations. Et donc, c'est un groupe qui est capable aujourd'hui de prendre en compte ce qui l'un de leurs objectifs centraux est vraiment d'obtenir la reconnaissance internationale, le siège à l'ONU de l'Afghanistan, si un jour ils prennent Kaboul. Et donc, pour ça, ils sont prêts à faire beaucoup de choses, à se faire reconnaître, à discuter avec les Nations Unies, dont ils ont été un interlocuteur régulier, à se présenter, bien que leurs mesures sur les droits des femmes soient sinon limitées, voire quasi nulles, à se présenter comme des défenseurs des droits des femmes.
En mettant en avant quelles mesures ou quels faits pour se targuer d'avoir fait avancer le droit des femmes?
Alors, de leur point de vue, hein, oui. Bien sûr, on parle bien de ce que eux prétendent faire.
Bien sûr.
Ils ont régulièrement mis en avant que c'est eux qui protègent réellement l'intégrité physique des femmes afghanes et non pas les troupes occidentales et non pas le régime de Kaboul qui mettrait à bas l'intégrité physique et morale des femmes afghanes. Et ils ont tout un discours sur la défense morale de la société afghane qui inclut les femmes. Et ce discours-là, qui évidemment ne tient pas la route si on s'arrête sur leur bilan en termes de droits de l'homme, est un discours qui, pour eux, leur permet de se mettre en avant comme un mouvement qui s'efforcerait de respecter le droit international.
Alors si j'insiste un peu sur cette question, c'est parce qu'en 2001, on parlait beaucoup et surtout de ce qu'ils imposaient les talibans aux femmes et aux petites filles dès le plus jeune âge en s'opposant à l'éducation des filles. Et le chercheur Didier Chaudet, tout récemment dans un article paru dans The Conversation, dit qu'aujourd'hui les talibans préfèrent contrôler l'éducation des filles plutôt que l'interdire et qu'ils cooptent les écoles financées par Kaboul.
Tout à fait, ils font ça. Alors en fait, ça n'est pas nouveau. Hein. Ils faisaient déjà ça dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils interdisent l'école, ils interdisaient l'école en général à partir de la puberté, 10, 11, 12 ans. Ils continuent de faire des mesures de ce type-là, voire parfois laissent des écoles, des filles plus âgées aller à l'école. Ce qu'ils font néanmoins, c'est qu'ils changent les programmes. Ils s'assurent que les cours d'anglais s'arrêtent et que des cours de religion, que certains cours qui sont considérés non musulmans, non contraires à leur vision très rigoriste hein, de la foi, ne sont pas donnés dans les écoles.
Est-ce qu'ils ont une vraie volonté de montrer ce qu'ils veulent et ce qu'ils savent faire, disons politiquement? Ils ont encore des Afghans à convaincre, y compris au sein de la population pachtoune dont ils sont issus.
Oui, c'est un mouvement qui ne fait pas du tout consensus en Afghanistan, loin de là. Hein. C'est un mouvement, par exemple, qui dans les villes, et il faut bien comprendre qu'en Afghanistan, aujourd'hui, les urbains sont majoritaires. Hein. C'est un pays majoritairement urbain, contrairement à l'image qu'on en a. Les talibans sont très impopulaires. Les talibans ne gagneraient jamais une élection, et d'ailleurs, les talibans ne participeront jamais à une élection, car leur seul moyen de prendre le pouvoir est militaire, et donc c'est un mouvement qui quelque part, n'a aucune capacité à prendre le pouvoir à travers un soutien populaire. C'est un mouvement qui vise vraiment à prendre le pouvoir à travers les armes, ce qui est vraiment une possibilité qu'ils ont dans les années suivantes. Et ils savent très bien que s'ils sont au pouvoir, le fait que la majorité de la population ne veut pas d'eux ne changera rien au fait qu'ils seront au pouvoir.
Voilà pourquoi quiconque participera à la présidentielle prévue pour le 28 septembre, mais rien n'est moins sûr en Afghanistan sur cette question, mais il les menace de mort, tous ceux qui participeront à cette présidentielle. Les talibans aujourd'hui ne sont pas du tout inclus dans le jeu politique, n'ont pas le droit de présenter des candidats, et a priori, je ne sais pas, n'en ont peut-être pas l'intention, mais y a-t-il en Afghanistan, au sein du gouvernement, des voix pour dire qu'il faut ne serait-ce que songer à leur donner une place ?
Oui, mais le problème, c'est que ces voix, beaucoup de voix, même à l'intérieur du gouvernement, proposent des modalités de négociation. Le problème, c'est que les multiples acteurs du gouvernement qui le font sont assez mal coordonnés, en conflit les unes contre les autres. Hein. On a un paradoxe d'une unité du mouvement taliban et d'une désunité du gouvernement, d'une fragmentation du gouvernement. Et par ailleurs, le recul constant du gouvernement sur le terrain a pour effet d'affaiblir la main des négociateurs du côté du gouvernement si jamais ils voulaient faire des négociations, les talibans apparaissant maintenant à la fois comme l'acteur qui a obtenu une légitimité internationale à cause des États-Unis et l'acteur qui progresse militairement sur le terrain.
Et justement, est-ce que cette suspension des négociations à l'initiative des États-Unis peut redonner de la force et de la légitimité aux autorités afghanes qui avaient été exclues du processus ?
Il me semble que c'est plutôt l'inverse, malheureusement, car la rupture des négociations ne s'est pas faite sur les talibans ne respectant pas la structure de la négociation, mais bien sur les États-Unis décidant arbitrairement de ne pas suivre une mesure qu'ils ont eux-mêmes proposée. Hein. Toutes les mesures qui donnaient une légitimité extraordinaire aux talibans, les invités à Camp David, hein, comme les plus grands dirigeants de ce monde.
Eh bien, nous vous avons perdu à Dombatchko, donc nous n'aurons pas le fin mot de cette histoire, mais écoutez, il est 6h56, j'allais de toute façon vous remercier et vous dire au revoir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque semaine, une grande figure du patrimoine mondial. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
L'œuvre de Louise Bourgeois flirte avec la psychanalyse. Sa sculpture d'araignée géante est une ode ambiguë à sa mère, dont le métier était de tisser, et elle a consacré des œuvres plus ambiguës encore à la masculinité de son père. Morte en 2010, à 98 ans, cette franco-américaine est l'une des plus grandes figures de l'art du XXe siècle.
La Compagnie des œuvres, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr.
Une demi-heure de reportage sans commentaire, les pieds sur terre, Sonia Kronoum.
Cette semaine dans les pieds sur terre, des histoires stimulantes ou révoltantes sur l'environnement et la politique, la vie amoureuse et la vie spirituelle, dans la Drôme, à Oléron et dans l'Ain, avec des animaux qui sèment la zizanie, un attentat à Lourdes, une jeune fille non binaire, des enfants aux eaux et une étrange épidémie.
Les pieds sur terre, de lundi à vendredi à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Henry, s'en passe des choses ce matin.
Il est où votre invité ?
C'est
où ?
Oui, c'est qui disait, c'était David Jacoby Bouvier, ce qui disait meilleure fin d'interview dans l'histoire de la radio, comment se débarrasser d'un invité. Mais non, il était très bien à Dombatchko.
C'est pas vous qui avez raccroché ?
Non, pas du tout, c'est lui. Alors Guillaume Henry, c'est l'heure de votre humeur du jour. Bilal Hassani a donc failli remplacer Napoléon ?
Et oui, effectivement, failli, c'est le mot important. Hier, une rumeur bidon a parcouru les réseaux sociaux. Bilal Hassani aurait remplacé Napoléon dans les livres d'histoire de première. Alors, vous vous demandez peut-être, qui est ce Napoléon ?
Dites-nous.
Pétulant chef de guerre français, à moins que vous ignoriez qui est le chanteur Bilal Hassani, lequel entretient au moins un lien avec Bonaparte, puisqu'il est responsable d'un véritable Waterloo collaboral. Il est à la 16e place de l'Eurovision, ce qui a fait de notre pays une petite puissance moyenne sur le plan de la chanson. Pour le reste, les points communs entre Bilal Hassani et Napoléon sont assez peu nombreux, et pour dire la vérité, l'un n'a pas poussé l'autre. En dehors des manuels d'histoire, les deux coexistent, l'un à la rubrique époque napoléonienne, l'autre à la rubrique époque internet, puisqu'il n'y a pas encore d'époque hassanienne, mais en revanche, une petite vignette dans un manuel de première consacré au harcèlement sur internet, harcèlement dont Bilal Hassani a été victime. Alors en un sens, c'est logique, Napoléon n'a jamais été victime d'harcèlement sur internet. Ne me demandez pas pourquoi les livres d'histoire vont désormais de Napoléon au harcèlement sur internet. Ce qui est intéressant dans cet infox, comme on dit, Hassani a chassé Napoléon des livres d'histoire, c'est la capacité des réseaux sociaux à s'indigner sur tout et rien. Twitter est devenu une grande machine à fabriquer de l'indignation. On s'indigne, c'est un véritable inventaire à la Prévert des causes d'indignation. Cela peut donc aller de la mort d'un enfant à un chassé-croisé supposé dans les livres d'histoire. L'indignation est devenue une véritable drogue pour l'époque. C'est d'ailleurs l'idée que soutient le philosophe Laurent de Sutter dans un ouvrage titré « L'indignation totale », lequel explique que le fameux « indignez-vous » formulé jadis par Stéphane Hessel s'est transformé en « alignez-vous », une manière d'être conforme, de s'indigner à l'unisson pour se prouver que l'on existe, les uns s'indignant, les autres s'indignant de l'indignation des autres. Parce que l'on peut s'indigner de tout, au fait, qui s'est assuré qu'Elton John n'avait pas chassé Shakespeare des manuels d'anglais ?